garder le nez dans vos affaires avec Simon Philibert. Pour savoir et comprendre l'actualité économique qui touche votre portefeuille, à vos affaires, en balado sur l'application Cube et le site cube.ca, section radio.
IGA est fier de présenter À vos affaires. Découvrez les offres de la circulaire à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
Le commentaire de
Steve Fortin, des positions pas comme les autres.
Steve, la comédienne Marie-France Lambert a une idée fantastique. Elle dit, il faut présenter des pièces de théâtre et des spectacles dans les Costco.
Presque, hein? C'est hallucinant.
C'est
puis on disait qu'on était pour s'en parler hier.
Oui.
Je veux quand même placer quelques mots par rapport à ça. Je pense à un de mes chums, là, un de mes meilleurs chums ici, puis d'envie, en fait, là, mon chum Carl Prévost, qui est avec les Mountain Daisies. Tu sais, puis je veux dire... Il venait de recommencer, là, tu sais, au franco-ontarien, bon, un show, pas beaucoup de monde, puis, tu sais, j'en connais comme ça plein de gens, que ce soit dans les arts de la scène, dans la musique, ou même des artistes visuels, ou, tu sais, puis, je veux dire, c'est difficile, puis c'est difficile de faire des programmes pour ces gens-là, c'est difficile de quand on pense à, par exemple, les effets de la pandémie, puis tu te dis, ben, OK, comment on va faire pour que les propriétaires de petites salles en région, tu sais, qui essaient de faire des programmations, puis qui sur le de la devanture de leur on le voit nous ici à Saint-André-Avelin, tu sais, devant le Saint-André, notre petite salle de spectacle, tu sais, on commence là, discrètement, on dit ben peut-être en novembre puis tout ça, puis qu'est-ce qu'on fait, on avait des contrats, on a repoussé ça, on va repousser ça une autre fois, mais ça tombe tout à l'eau. C'est un échafaudage qui est très très fragile. Puis j'espère que dans tout ça, à un moment donné, on va aller un petit peu plus loin. Quand c'est le temps de sauver d'autres pans de l'économie, on est capable d'aller jusque dans les menus détails. On doit aussi le faire quand c'est le temps et surtout l'importance de la culture. Parce que ce qu'on va perdre en culture, là, chaque petite salle en région qui va fermer où on était capable de présenter des shows de 60 places, puis 70 places pour des gens qui sont un petit peu loin des centres, des grands centres, ben c'est la culture qui meurt, puis on en a besoin de ça, parce qu'un monde sans culture post-pandémie, et on va avoir tellement besoin de ça, Richard, je peux pas
croire de bonne manière. Ben, écoute, je suis allé au théâtre, moi, je suis du CEP au théâtre, puis on était tous, tu sais, à plusieurs bancs de distance entre nous. Écoute, tu mets ton masque quand tu te promènes, quand tu t'assois, t'enlèves ton masque, c'était parfait, c'était impeccable. Même chose avec les restaurants, avec les séparateurs en plexiglas. Les restaurateurs ont dépensé énormément d'argent pour le rendre sécuritaire, puis là, paf, on tire la plug. Je trouve ça, tu sais, je veux pas non plus le tomber sur la tête de François Legault, mais qu'il nous explique là, cette décision-là exactement. Là, on la comprend pas, parce que selon moi, c'est pas mal plus dangereux aller au Carrefour Laval, puis aller au Costco, on va dire, qu'aller dans une salle de cinéma, une salle de spectacle. En
fait. Ben je le sais, puis c'est ça qui est un petit peu frustrant. Puis d'un autre côté, pour ceux qui gèrent la pandémie en ce moment et qui ont les deux nez qui ont le nez là-dedans, les deux mains là-dedans, là, tu sais, on a vu là la ministre Roy, elle a été mise à contribution. Il va falloir qu'elle arrive avec quelque chose. On va voir ce qu'ils ont à proposer, parce que en même temps, je veux dire, on a vu jusqu'à maintenant la CAQ a quand même, tu sais, le gouvernement de la CAQ a été assez réactif quand c'était le temps. On va voir ce qu'ils auront proposé, puis on va voir ce qu'ils auront proposé aussi aux régions qui, comme la mienne en ce moment, on n'avait pas eu de cas dans les écoles, on n'avait pas eu du tout. Puis là, depuis hier, on en a deux. Ça commence et c'est un petit milieu ici, puis on avait réussi quand même à bien se protéger, mais là, ça pourrait débouler assez vite. Là. Je veux pas me faire prophète de malheur, mais ça pourrait débouler assez vite, puis dans un cas comme celui-là, ben ici, ça tenait encore. Moi, je suis allé au restaurant avant hier, tu sais, ça tient encore. On était très bien, il n'y avait aucun problème, très distancé, mais ça tient un peu de choses, parce qu'il suffit qu'on vire dans le rouge. Puis des restaurateurs qui réussissent à garder, c'est pas qu'ils font des, on me l'a dit là, ils font pas d'argent, mais au moins ils réussissent à faire travailler leur monde, puis ils gardent la tête juste en haut de l'eau.
Mais c'est du quoi en plus, Steve, là.
Ça va être terrible.
Quand tu vas au resto, là, c'est certain que c'est pas comme avant, là, parce qu'avec les séparateurs, avec les masques et tout ça,
non.
Mais quand même, ça nous donne. T'sais, on s'accroche à ce qu'on a, là. Ça nous donne quand même, on a quand même le sentiment de la vie d'avant.
Mais en tout cas, il y a quelque chose que j'ai lu ça moi ce matin, puis là je vais aller l'écouter, mais j'ai lu un transcript de ça. Le docteur Carl Weiss, que je respecte beaucoup, souvent là, tu sais, quand il parle au 98.5, il y a des trucs qu'il dit là, puis je me dis, mais il a tellement raison. on a peut-être merdé cette fois-là. Tu sais, si on s'en était parlé au début de la deuxième vague, je disais ça va probablement être par les écoles. Ben, cet épidémiologiste-là dit c'est dans les écoles en ce moment que les éclosions se font. Les enfants sont vecteurs de ça. En Ontario, il y a moins de cas parce qu'on ne s'est plus répandu que les élèves portent le masque. Est-ce qu'on a manqué notre coup de ce côté-là? En tout cas, il faudra voir. J'espère que c'est pas ça. Mais en ce moment, les foyers d'éclosion sont beaucoup dans les écoles. Puis ça, c'est très problématique. Et on le voit même chez nous, là.
Écoute, il faut parler de notre affaire, George Floyd, à nous. Le décès de Joyce Echaquan. Ouais. Horrible.
Écoute, là, je regardais ça passer, puis là, quand j'ai lu ça, puis la vidéo, c'est absolument insoutenable. C'est insoutenable. Et tout à coup, il y a un de mes contacts qui a dit, quelqu'un avec qui j'ai une bonne relation, qui dit, écoute, moi, j'avais travaillé et j'avais assisté aux audiences, notamment là de la commission vient, puis il m'a fait parvenir le rapport final, puis il m'a dirigé vers le chapitre numéro 10, celui sur les services de santé puis la population autochtone. Et là, quand je me suis mis à lire ça, à lire les témoignages, tout à coup, je me disais, OK, wow, tu sais, il y a quelque chose là-dedans. Puis on parle de grandes disparités culturelles. C'est pas, admettons là, qu'à la base, là, les peuples autochtones, les gens de nations autochtones, s'ils conçoivent pas, c'est un peu comme le système de justice, s'ils conçoivent pas la santé, les soins, la façon un peu plus holistique, si on veut, là, de se soigner de la même manière, ben c'était à la base de conflits et pas juste de conflits, en fait même d'une espèce de discrimination systémique. C'est comme ça que le juge à la retraite, Jacques, vient le nommer dans son rapport. Mais à travers son rapport, on voit aussi beaucoup de gens, des soignants, qui eux disent et le nomment sans aucune retenue, de racisme systémique à l'intérieur du système. Parce que c'est pas normal, par exemple, que des gens qui sont dans des communautés éloignées voient le fait de se présenter dans un hôpital comme une épreuve insurmontable. Et ça, souvent, de fait que, à plusieurs reprises et de façon répétée, on les a traités là-bas sans égard ou sans aucune attention à leur culture propre. Et ça, ben, on le voit dans le rapport et c'est décrit là de manière on ne peut plus claire. Et là, il faut revenir aux recommandations qui sont faites parce que même si certaines personnes disent ouais, il faut faire une enquête et tout ça, ben parfait, faisons une enquête. Il y a eu là-bas manifestement deux ou trois personnes qui ont tenu des propos absolument racistes. Que ces gens-là ne soient plus dans le système de santé, que ces gens-là soient évincés, ils n'ont pas d'affaires. Ces gens-là doivent être carrément écartés de toute pratique dans le système hospitalier. Là, ça n'a aucun sens. Mais surtout, il faut aller plus loin que ça, Richard. Il faut comprendre comment que ça fait que des gens comme ça se retrouvent là, puis pourquoi il y a une certaine culture du dénigrement systématique qui se fait envers les personnes autochtones quand elles se présentent dans le système de santé.
Il faut, tu sais, regarde bien ça, moi tous les jours, OK, je passe sur l'avenue du Parc, tu connais bien Montréal, même si tu viens en région, je descends du Parc, puis tu sais c'est quoi, du Parc et Sherbrooke, tu sais ce qu'il y a là, du Parc et Sherbrooke, il y a beaucoup d'Autochtones qui sont là, complètement sous, totalement paf. Ils passent leur soirée à boire. Ils sont une quinzaine, OK? Ils sont toujours là. Et des fois, je vais te dire, des fois, ils me tapent ses nerfs. Des fois, ils sont complètement sous dans la rue. T'as peur d'être frappé. Ils cognent sur ta fenêtre. Ils veulent de l'argent pour acheter de l'alcool et tout ça. Mais en même temps, il faut aller au-delà de ça. Des fois, oui, t'es agacé. Puis des fois, t'es regardant, tu dis, tabarnouche, prenez-vous en main. Mais au-delà de ça, il y a une détresse. Ce sont des gens qui ont été déculturés. Tu sais, quand tu dis, là, tu cites souvent Pierre Falardeau, un peuple qui meurt longtemps, puis ça fait mal. Ben, c'est ça. Oui. C'est des gens qu'on a déculturés, qu'on a crissés dans des réserves. Ou alors là, ils sont dans le centre-ville, ils ont plus de culture, ils ont plus aucune racine, ils ont plus de contact avec ce qu'ils sont, et c'est certain qu'ils sont en détresse. Puis des fois, oui, ils peuvent taper ses nerfs, mais de là à développer un ressentiment raciste envers ces gens-là, faut aller au-delà de ça, au-delà de l'agacement, puis dire, Christy, c'est des gens qui sont en détresse.
Ben non seulement c'est des gens qui sont en détresse, mais ça procède ça quand même de problèmes qui sont en amont et je veux dire ça fait partie d'un long cheminement qui on dirait qui n'aboutira jamais, celui de la façon dont on traitera je veux dire, les nations autochtones de nation à nation, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des problématiques à l'intérieur même de ces nations-là. J'ai travaillé à un moment donné sur un projet où, justement, on avait rencontré des personnes d'origine autochtone qui étaient itinérantes, puis je l'avais fait dans un à titre de rédacteur dans un projet en sociologie, puis on était quand même surpris de voir qu'il y avait des itinérants qui, eux-mêmes, expliquaient leurs conditions d'itinérance par des conflits qui étaient internes, à leur propre collectivité. Puis, à un moment donné, ça, ils pouvaient se retrouver à Ottawa, ils pouvaient se retrouver à Montréal, ils pouvaient se retrouver même, j'avais rencontré des gens qui étaient à Sept-Îles, là, tu sais, juste à côté. Puis pourtant, je veux dire, ils étaient totalement désabusés, ils étaient totalement, tu sais, mais, de toute façon, une fois que tu es dans le système de santé, une fois que tu te présentes à l'urgence, peu importe ta condition.
Exactement.
On ne peut pas accepter qu'il y ait une fraction de déshumanisation là. C'est impossible.
Exactement.
Je me fous, moi, que l'infirmière, elle avait fait peut-être un double qui était sur sa 18e heure de travail. Ce qu'on a entendu là, c'est déshumanisant. Puis devant elle, et devant la personne qui est là, même si tu l'as vu 4 fois, même si tu sais qu'elle se prostitue, si c'est ça, je le sais pas, là, mais on dirait que ça laisse entendre ça. T'as pas le droit. Tu peux pas la déshumaniser.
T'as raison.
Il y a quelque chose là-dedans qui va faire en sorte que cette personne-là, non seulement, on l'a congédiée, faut qu'elle soit radiée, faut plus jamais qu'on la voit dans un hôpital, cette personne-là.
Même si ça fait 15 fois qu'elle arrive à l'hôpital, peut-être complètement saoule, puis là, je parle pas de cette femme-là, mais peut-être un autre membre des Premières Nations. Effectivement, une fille qui se prostitue, une fille qui a des enfants à répétition, puis tout ça. Je veux dire, c'est une femme en détresse, puis dans un milieu hospitalier, on s'attend à ce que ce genre de personnes-là soient accueillies sans jugement.
Exactement. Et là, ce qui va se passer, je l'espère, c'est que s'il y a un effet d'entraînement dans tout ça, c'est que on va regarder du côté du rapport Vient, et une des recommandations, si j'en nomme juste une, c'est une sensibilisation à ces différences culturelles, à ces barrières. Lui, il appelle ça les barrières culturelles. On est obligé de le faire. On doit le faire pour les nations autochtones. Puis comme il y a de plus en plus de gens qui viennent de partout au monde, qui se présentent dans nos systèmes de santé, on doit absolument sensibiliser ça. Moi, je peux dire que dans d'autres pans de notre société, on le fait, ça. Il fut un temps où on envoyait des militaires un peu partout dans le monde, puis on leur disait à peu près rien des cultures où ils allaient. Ben, les militaires qui étaient déployés en Afghanistan, à un moment donné, on s'est rendu compte que ça valait la peine de les envoyer soit à Saint-Jean, soit à Kingston, pour leur apprendre, à un moment donné, un tout petit peu plus par rapport à la culture d'où ils allaient. On le fait, ça, dans plein de différents types d'emplois. On le fait pour les gens qu'on envoyait travailler dans le Grand Nord aussi, à un moment donné. On les sensibilisait au type de culture qu'ils auraient, dans laquelle ils auraient à évoluer. Et c'est normal de le faire. Qu'on le fasse pas dans le système de santé, ou qu'on ne le fasse pas systématiquement. On le fait aussi dans la formation des policiers, soit dit en passant.
Ben oui.
Il faut le faire. Il faut absolument qu'on retienne ça. Et cette déshumanisation-là, elle est inexplicable. Elle ne l'est pas, puis cette personne-là, ou ces personnes-là qui étaient là, ne doivent absolument plus jamais œuvrer dans le système de santé. J'espère
tout
qu'on
à fait.
En arrivera à ça.
Tout à fait. Écoute, rapidement, là, une minute et demie, pas plus, là, le débat d'hier, je veux t'entendre là-dessus.
Écoute, c'est simple. Je suis tombé sur une analyse que j'ai beaucoup aimée hier, parce que je regardais ça puis à la télévision, mais plutôt en direct sur le web. Ça me donne plus de possibilités sur PBS. Puis à un moment donné, tu avais quelqu'un qui se présentait comme un démocrate, un analyste plutôt démocrate. C'est vrai, aux États-Unis, les analystes n'ont pas peur. Tu sais, on le sait de quelles obédiences ou de quelles inclinaisons ils sont. Puis ils disaient, ce débat-là, oui, c'est vrai. Oui, il y avait un bully, comme on dit. Puis c'est vrai que Trump est Trump. On savait qu'il était pour être Trump. Mais le Parti démocrate, à un moment donné, je crois qu'on aurait peut-être pu faire un choix qui était un petit peu plus pertinent pour affronter Trump, parce qu'on le savait.
Ben,
et hier, ce qui est sorti de ça, c'était à quel point Joe Biden était finalement là très, très, très discret, puis un peu frêle, je trouvais. Je sais pas.
C'est
pas de bon augure.
Oh non, il a l'air d'avoir 103 ans, là.
Ça faisait carrément, à certains moments, ça faisait carrément pitié, je trouvais. J'avais un sentiment là, un peu, là, je me disais, mais pourquoi, pauvre homme, tu sais, qu'est-ce qu'il fait là? Et pendant ce temps-là, je me disais, tant qu'avoir choisi un homme comme de cet âge-là pour l'envoyer là, il me semble que j'aurais aimé voir Bernie Sanders s'enflammer complètement, puis tout simplement, là, littéralement, là, se jeter sur Donald Trump, parce que c'est ça que cet homme-là mérite. Et hier, il n'a pas eu ça. c'est pas arrivé, ça. Et c'est bien dommage parce que, en tout cas...
Tout ce qu'il y avait, c'est qu'il y avait un smirk d'en face. Joe Biden, il avait un petit sourire, puis il hanchait la tête, c'est tout. C'était pas fort. Merci beaucoup, Steve Fortin. Bonne journée.
En ce moment, il y a une fille de Montréal qui se bat à Roland-Garros au tennis. Le plus beau retour au sport, puis on le dit jamais assez parce qu'on a comme aimé, pas trop l'aimer, cette fille-là au Québec, là. Eugénie Bouchard est en train de réaliser. Elle, 2020, là, c'est l'athlète, pour moi, c'est l'athlète de l'année au Québec. C'est elle, elle est là, elle fait un retour, encourageons-la.
C'est méchant, méchant comeback, c'est Rocky III. Merci, 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 okay, Steve, salut.